conneries.
C'est le canut info. Ah, mais je ne sais pas. Mais c'est celui du vendredi en plus.
Quelle heure?
À 19h. Attends que j'appelle ma grand-mère. Tu lui dis de mettre le 102.2. La plus rebelle des radios. La plus rebelle des radios. Waouh.
C'est gros, c'est bleu, ça fait pas de bruit, ça se cache derrière le cimetière la nuit. Ça te surveille, ça te suit, ça te guette. Même si tu portes une casquette, c'est derrière toi quand tu conduis. Ça veut tes papiers, ton permis, ton vol, polémique et ton fichier. C'est tout le temps vénère et c'est mal poli. Ça saute à la gueule comme une grosse bête. Un monstre chelou avec trois têtes. Prends une tâche dans une estafette. C'est quoi? C'est quoi?
C'est Camille l'info.
Canu 102.2. Canu info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos. Salut, vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 FM, la plus rebelle des radios, et c'est le dernier Canu Info de l'année 2016. On va commencer par passer du déclassement de l'autoroute A6 A7 qui traverse Lyon.
Et ensuite, on parlera de la sécurité qui sera renforcée demain soir à Lyon.
On enchaînera sur la ferme Orsol à la Doua.
On vous fera ensuite une petite rétrospective juridique d'une année sous état d'urgence en France.
Pour aller du côté de Tours et vous parler d'un foyer d'hébergement de sans-abri qui a été fermé brutalement.
Et on verra comment utiliser le code de la route pour traquer les SDF.
Et ensuite, on pourra parler de Amazon qui livre sa propagande avec des drones.
On fera ensuite un petit point sur les jeunes migrants en CO qui se rebiffent.
On continuera, et ça sera la dernière de l'année, de vous parler de ces fameuses devantures de PS taguées. Et ça se passe à Tours en soutien aux migrants.
On fera ensuite un petit tour à l'international au Brésil pour vous parler d'afroféminisme et de la situation sociale au Brésil.
Et on terminera par le traditionnel agenda.
Prenons une ville, Lyon. À Lyon, nous pensons que chacun est capable d'innover. Nous rassemblons les conditions nécessaires pour faire émerger les projets
nous
les plus.
Nous agissons avec la volonté la plus respectueuse et la plus responsable.
Vous allez dire la précarité n'est pas minimale à Lyon.
Difficile.
Pour cela, nous récoltons les données du territoire, les organisons et les traitons.
On ne pense pas ici que cela fait plaisir à aucun des adjoints élus ici.
Et vous en bonne intelligence. Pouvoir inventer et construire la ville de demain est une chance. Construisons-la ensemble.
On ne vous laissera pas faire.
On ne vous laissera pas faire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
Monsieur le maire.
C'est nous les artistes, en chantant.
Et on résiste. Et on va commencer par parler donc de l'autoroute. Alors c'était dans les tuyaux depuis des mois et c'est désormais officiel. L'autoroute qui traverse Lyon ne sera plus une autoroute à compter du 1er janvier 2017. Un décret du préfet paru au journal officiel le 29 décembre annonce ainsi que les tronçons et les bretelles qui sont situés entre Limonest et Pierre-Bénite sont reclassés dans le domaine public national. Alors Gérard Collomb a annoncé se réjouir d'un projet, je cite, enthousiasmant, qui va transformer le visage de notre territoire pour l'embellir encore.
Waouh !
La métropole a diffusé des images, largement reprises par les médias locaux, de ce à quoi pourrait ressembler le futur boulevard urbain, quel joli nom, qui prendra la place de l'autoroute le long du Rhône au niveau de confluence. Sur celle-ci, plus aucune voiture, mais des bus, des pistes cyclables et des piétons. Alors on voudrait nous faire croire que les bagnoles et les camions vont disparaître en même temps que l'autoroute, qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Pourtant, s'il s'agit bien de dégager les bagnoles du centre de Lyon, cela va introduire un détournement du trafic vers d'autres espaces. Non seulement on va pouvoir aller nous promener demain sur les bords du Rhône, mais celles et ceux qui habitent près du contournement est de Lyon ou sur le futur tracé du contournement ouest, le fameux TOP, vont prochainement voir arriver les automobilistes quotidiens ou vacanciers privés de leur autoroute actuelle sur leur territoire. Le déclassement de l'autoroute A6 A7 est autorisé par l'État à condition qu'un grand contournement autoroutier de Lyon voit le jour. Ses contours et son tracé sont encore inconnus, puisqu'il est au stade d'étude, mais il se situera fort probablement à l'est de la ville. Et on se doute un petit peu de pourquoi c'est fait comme ça, c'est parce qu'il est considéré comme plus légitime d'imposer le trafic des bagnoles et des camions, et puis la pollution, aux habitants les moins fortunés de l'agglomération, plutôt qu'aux riches qui habitent à l'ouest. Alors, Ce qui fait que Gérard Collomb se réjouit essentiellement, c'est le fait que Confluence, hein, donc le quartier phare ultra-moderne de ses derniers mandats, soit bientôt débarrassé de ce qui peut encore être considéré comme une nuisance au cadre de vie de ses habitants, donc la fameuse autoroute. Et donc ce quartier, c'est un peu la figure de proue de la stratégie de Lyon, hein, en termes de promotion aux échelles nationales et internationales. Et les appartements, ils coûtent quand même 6000 euros du mètre carré, ce qui est à peu près le double du reste de l'agglomération. Et puis là-bas aussi, il y a beaucoup de cadres de la communication et de l'immobilier qui peuvent y croiser au quotidien les journalistes du Progrès, de Radio Espace ou d'Euronews, ainsi que les cadres de la région. Et on comprend bien pourquoi c'est une population qui fait attention, enfin à qui la ville fait extrêmement attention, pour qu'elle montre qu'elle est très dynamique d'un point de vue économique. D'ailleurs, on remarque au passage que Gérard Collomb a désormais suffisamment de pouvoir pour imposer quasiment tout seul la décision de reporter le trafic routier de Lyon sur les communes périphériques. Certains maires de l'Est lyonnais ne manquent d'ailleurs pas de signaler publiquement leur désaccord avec les projets de l'omniprésent président de la métropole. Et donc, alors pour faire un petit retour historique, en 1971, lors de l'ouverture du tunnel sous Fourvière, de cette belle autoroute, le maire de Lyon d'alors, Louis Pradel, se félicitait en disant « Dans peu de temps, la traversée de Lyon pourra se faire sans rencontrer un seul feu rouge et notre ville sera la seule cité du monde, après Los Angeles, à se retrouver dans un tel cas. » Alors on constate qu'en 2016, l'objectif du déclassement de l'autoroute est clair, c'est faire briller le quartier hype de la ville, Confluence, pour se placer toujours dans l'éternelle compétition internationale qui se joue entre les villes. Et en 45 ans, finalement, l'intérêt du principal élu Lyon pour la comparaison et la compétition internationale est une obsession persistante. Ce qui change un petit peu, c'est que le référentiel, c'est plus Los Angeles, mais plutôt Copenhague ou Amsterdam. Et puis, faute de disparaître, la voiture doit désormais devenir invisible pour les habitants privilégiés du centre-ville, et tant pis pour les autres.
Et alors, s'il n'y a plus besoin de faire gaffe avec les voitures à Lyon, peut-être qu'il y a besoin de faire gaffe demain soir dans Lyon.
Et oui, puisque demain soir, vous n'aurez pas manqué d'apprendre cette information, c'est la Saint-Sylvestre. Nous sommes demain le 31 janvier et c'est le Progrès de ce matin qui nous l'apprend. Compte tenu du contexte d'une menace terroriste toujours présente, le préfet de région, Michel Delpouech, qui n'est pas un chanteur, a mis en place des dispositifs particuliers. Dans l'agglomération lyonnaise, la présence policière sera renforcée entre 21h et 5h du matin, mais également dans l'après-midi du 31 décembre et la matinée du 1er janvier. Alors, renforcer, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de 430 policiers qui seront engagés dans ce dispositif, appuyés par 330 militaires de l'opération Sentinelle. Vous savez, ces jeunes gens que l'on voit déjà patrouiller assez souvent en presqu'île et à la gare. En plus de ces militaires et de ces policiers, il y aura également des CRS qui seront positionnés principalement dans les zones de sécurité prioritaires, c'est-à-dire les gares, les centres-villes, etc. Ça va être bien. Enfin, du 31 décembre toute la journée au 1er janvier 2017 à 12h, la consommation en réunion de boissons alcoolisées sur la voie publique sera interdite, c'est le préfet qui nous dit, tout comme la vente de pétards et de feux d'artifice, les pétards qui font boum, ainsi que leur utilisation sur la voie publique. Et vous rigolez bien, puisque en effet la vente d'alcool à emporter sera interdite. On comprend pas très bien le lien entre la vente d'alcool et la menace terroriste, à moins de penser qu'il est plus douloureux de mourir bourré. Voilà, toujours information locale et on va aller vers la Doua.
Et oui, on va à la Doua, puisque dans une ancienne serre de 50 mètres carrés qui est donc installée sur le campus de la Doua, devant l'Institut National des Sciences Appliquées, donc à Villeurbanne, les salades et les poivrons de la ferme urbaine lyonnaise se développent en pleine ville, sans terre, sans soleil, à grand renfort de technologie. Dans une des deux pièces de cette serre, surmontée de puissantes rampes de LED, qui sont certainement alimentées par la centrale du Bugey, tous les légumes sont alignés sur un tapis roulant qui les transporte sur trois étages. Au niveau inférieur, par exemple, c'est la station d'arrosage, et en ce moment, c'est la belle saison, la température ambiante est maintenue à 24 degrés. Quand les nouveaux végétaux plantés se réveillent, puis arborent 4 ou 5 feuilles, hop, un robot les dépose sur le tapis roulant et le cycle reprend. Et dans la deuxième moitié de la serre, c'est là qu'on trouve le système de climatisation, l'ordinateur qui mesure chaque paramètre et les réservoirs d'eau enrichis de sels minéraux. Tout plein de petits systèmes écolos. Ce prototype, il a été inauguré en octobre et il est inédit en France. Le président de la société, qui s'appelle Philippe Audubert, lui, n'est pas peu fier de ses premières récoltes. Il nous dit « Les plantes n'ont pas besoin de développer de résistance aux intempéries et aux insectes. » Ben non. Et il dit aussi « Nous produisons 10 fois plus de végétaux pour la même superficie, car ils poussent 12 mois sur 12 sur plusieurs niveaux. » Ça, c'est écolo. Et derrière une production ultra-industrialisée, on veut nous faire croire que cette ferme défend des valeurs environnementales. Ce laboratoire à légumes et à plantes aromatiques ne fait pas rêver tout le monde, voire paraît inquiétant et interroge, puisqu'en effet, on ne sait pas, par exemple, par qui, comment sont fabriqués tous ces systèmes technologiques, ni comment ils vont être recyclés. On n'a aucune info sur le rapport énergétique, sur les coûts de production, etc. Mais ce modèle de culture hors sol intéresse bien sûr certains partenaires publics et privés qui investissent dans son développement. Il faut savoir que les trois fondateurs de FUL, ferme urbaine lyonnaise, ne sont bien sûr, n'ont rien à voir avec l'agriculture. Ils sont tous les trois urbanistes, architectes et cadres financiers. Voilà. La course à l'innovation est donc lancée et ces trois fondateurs se cachent pas d'être inspirés d'idées émergentes. Ils vantent leur propre concept qu'ils disent économe en eau, en surface au sol, originel par son système de covoyage, suffisamment léger pour être installé dans une cave ou dans une friche urbaine. Puisque après avoir stérilisé les plus belles terres agricoles, l'avenir de l'agriculture est donc maintenant dans les caves. Et ça ne s'arrête pas là. Certains y voient un moyen de nourrir les agglomérations de plus en plus peuplées, une façon de réduire les transports des lieux de culture à ceux de consommation et de compléter l'offre des campagnes où les sols agricoles s'épuisent. La faute à qui ? L'argumentation marketing est donc déjà au point. Les précurseurs lyonnais promettent des légumes plus proches, plus propres, plus frais, plus sains. Que des associations d'insertion pourraient un jour se charger de faire distribuer, devinez comment ? À vélo. Bah oui. Voilà, et donc un projet de 850 mètres carrés pourrait prendre place en 2017, pas forcément à Lyon, on sait pas trop où. Et pour finir, on peut lire assez précisément dans Le Monde, je cite, quant aux cultures, ils réfléchissent à s'orienter vers des plantes de niche qui cibleraient les secteurs de la cosmétique, de la pharmacologie et de la chimie verte d'un meilleur rendement qu'une modeste Batavia. Donc si on n'était pas sûr d'avoir compris, bah c'est fait. Ce qui les intéresse, c'est bien une meilleure rentabilité, mais sûrement pas pour une meilleure alimentation des populations.
Et oui, et du coup ils vont peut-être faire pousser du cannabis, non ?
Peut-être.
Passons, on passe aux informations nationales.
Canu. Info.
Gendarmerie nationale ! Arrêtez un peu les conneries, là, non ?
Savez-vous seulement ce que c'est qu'une dictature ? Une dictature, c'est quand les gens sont communistes, déjà. Ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État ?
J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle.
Info nationale.
Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite.
Comme vous le savez, chaque fin d'année est l'occasion pour les médias de s'adonner au jeu des rétrospectives et des bilans. Donc il n'y aurait aucune raison que le Canu Info du vendredi ne déroge à cette tradition. Nous sommes donc fadés la totalité des numéros du journal officiel de la République française paru en 2016 afin de vous proposer cette émouvante rétrospective juridique. Flicage, fichage, foutage de gueule, retour sur une année placée sous le signe de l'état d'urgence et de la fuite en avant sécuritaire.
Alors, en 2016, ça a commencé le 29 janvier et dès cette date, le ton est donné et l'année commence fort avec la fixation de la liste des données de connexion accessibles aux services spécialisés de renseignement et aux unités antiterroristes. C'est une loi qui entre en application le 24 juillet 2015, loi relative au renseignement.
Ensuite, le 25 février, la coopération entre les États-Unis et la France en matière d'enquête judiciaire en vue de prévenir et de lutter contre la criminalité grave et le terrorisme est renforcée. Il s'agit d'une coopération mutuelle qui profite aux services répressifs respectifs des deux parties. L'accord prévoit le transfert des empreintes palmaires et digitales, dites données dactyloscopiques, et des profils ADN, ainsi que de toutes données personnelles dans le cadre d'enquêtes relatives à des crimes graves. En fait de crimes graves, l'annexe de l'accord, qui précise la liste d'infractions concernées, nous apprend que cette notion recoupe apparemment la quasi-totalité du code pénal, puisque sont concernées un ensemble d'infractions allant du génocide au simple vol, du terrorisme au cambriolage, ou encore de l'espionnage à la simple possession de cannabis. bientôt des radars routiers reliés directement à la NSA.
Et quelques jours avant le 19 février 2016, on la sentait venir, elle est là. C'est la première prorogation de l'état d'urgence pour 3 mois à compter du 26 février 2016.
Le 3 mars, un fichier destiné à assurer le contrôle à distance et le suivi des obligations des personnes placées sous surveillance électronique et sous surveillance électronique mobile est mis en place. La liste des données contenues dans ce fichier et leur utilisation sont consultables aux articles R5732 et R5733 du Code de la procédure pénale.
Le 7 mars, le régime juridique sanctionnant l'immigration illégale est durci. L'assignation à résidence est renforcée et devient, lorsqu'elle est possible, le régime privilégié pour le droit commun, au détriment du centre de rétention, où on sait très bien qu'il n'y a pas assez de place. L'interpellation à domicile devient possible en vue de l'expulsion. Les sanctions en cas d'obstruction aux expulsions seront renforcées, notamment s'agissant des refus de prise d'empreintes digitales ou d'évasion d'un centre de rétention.
Rédigé dans la foulée de l'attaque ratée du Thalys d'août 2015, la loi Savary, relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, est promulguée le 22 mars 2016. Elle renforce drastiquement les contrôles et la surveillance dans les transports publics. Comme quoi, fraudeurs, terroristes, tout ça, c'est un peu la même engeance.
La lutte contre la radicalisation devient l'une des missions prioritaires des institutions chargées de la prévention de la délinquance. Il faut désormais parler de la prévention de la délinquance et de la radicalisation. Pour autant, toujours pas de définition juridique claire de ce que recouvre cette fameuse notion de radicalisation. Ça s'est passé le 6 mai 2016.
20 mai 2016, et oui, déjà le temps des cerises, mais aussi parce qu'il ne faudrait pas s'arrêter en si bon chemin, celui de la deuxième prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 2 mois à compter du 26 mai 2016.
Et puis le 4 juin 2016, la mi-année s'annonce logiquement comme le point d'orgue de ce festival juridique. La loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, a.k.a. loi Urvoas, vient normaliser des procédures de police judiciaire relatives à l'état d'urgence, perquisition de nuit, sonorisation, surveillance électronique. Au programme également, élargissement de la légitime défense pour les flics, retenue de 4 heures après contrôle d'identité si la personne contrôlée fait l'objet d'une fiche S ou qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'elle est liée à un projet terroriste, perpétuité incompressible spéciale pour les prévenus reconnus coupables de terrorisme, bientôt le retour des lettres de cachet.
Et jamais 203, troisième prorogation de l'état d'urgence pour une durée de 6 mois, à compter du 21 juillet 2016. Par ailleurs, la loi de 1955 sur l'état d'urgence est modifiée. Peuvent désormais être fermés les lieux de culte, je cite, au sein desquels sont tenus des propos constituant une provocation à la haine ou à la violence, ou une provocation à la commission d'actes de terrorisme, ou faisant l'apologie de tels actes. En outre, visiblement marqué par les manifestations printanières, le pouvoir s'est offert la possibilité d'interdire les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique, dès lors que l'autorité administrative justifie ne pas être en mesure d'en assurer la sécurité, compte tenu des moyens dont elle dispose. A noter aussi que les bagages et véhicules peuvent dorénavant être fouillés sans instruction du procureur et que les perquisitions administratives des données informatiques sont autorisées. Enfin, le code de procédure pénale est modifié afin d'autoriser la constitution de fichiers de données personnelles relatifs à la vidéosurveillance en établissement pénitentiaire.
Les données personnelles, encore collectées dans le cadre du renseignement territorial, n'étaient jusqu'à présent pas inscrites dans un fichier informatique centralisé. C'est chose faite depuis le 29 juillet. Outre les éléments classiques, photos, descriptions physiques, plaques d'immatriculation, informations financières, il mentionne notamment les activités politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales des personnes fichées. Aucun risque d'instrumentalisation de l'état d'urgence en vue donc.
Les retours sur le territoire national peuvent faire l'objet d'un contrôle administratif depuis le 28 septembre, avec les dorénavant classiques possibilités de limitation de circulation et d'assignation à résidence, mais aussi la participation forcée à un programme d'action destiné à permettre la réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté. Une sorte de session de rattrapage obligatoire pour les cancres du fond qui auraient séché les cours d'enseignement moral et civique au collège.
Afin de soulager la troupe, le gouvernement fait appel aux forces vives de notre chère patrie en créant le 13 octobre une garde nationale.
Fini les feuilles volantes, les PV égarés et les risques de vice de procédure. Depuis le 26 octobre, les données personnelles recueillies en Gardave sont enregistrées dans un nouveau fichier informatique, fort logiquement dénommé Informatisation de la gestion des gardes à vue ou IGAV.
Le 28 octobre, un jour qui restera marqué du sceau de l'infamie. En effet, c'est la création du fameux fichier TES, fichier généralisé de l'ensemble de la population dès lors qu'elle possède un passeport ou une carte d'identité, ne sera en tout cas pas passé inaperçu malgré sa publication pendant le week-end prolongé de la Toussaint. Publication un dimanche, on vous rappelle. Quelques émois par-ci, un débat parlementaire par-là, un soupçon d'indignation collective, et hop, le gouvernement a retiré son... Ah non, comment ça non ?
Par ailleurs, c'est connu, le nerf de la guerre, c'est le pognon. En conséquence, afin de lutter contre le financement du terrorisme, TRACFIN peut depuis le 10 novembre accéder à la liste des personnes recherchées. Par ailleurs, tout transfert d'argent en liquide d'un montant au moins égal à 10 000 euros, quelles qu'en soient les modalités, doit être signalé et les crédits à la consommation font désormais l'objet d'une surveillance des 1 000 euros. Pour ceux qui avaient des doutes sur les risques inhérents au fait de contracter un crédit revolving.
Et enfin, last but not least, le gouvernement ne pouvait pas finir l'année sans nous offrir un beau cadeau de Noël. Le 19 décembre, l'état d'urgence est prorogé une quatrième fois, jusqu'au 15 juillet 2017, ce qui devrait offrir toute latitude au prochain gouvernement pour fêter joyeusement son élection.
À Tours pour discuter de la fermeture d'un foyer d'hébergement, le foyer Albert Thomas. Et aujourd'hui, le téléphone de Canu va fonctionner.
Wow. Allô, 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 bonsoir. Est-ce que tu nous entends de Tours ?
Allô ?
Oui, ah super, tu nous entends, je crois que tu nous entends. En tout cas, nous on t'entend.
Oui.
Ah, c'est génial. Alors, on t'appelle de Tours. Pourquoi on t'appelle ? Parce que actuellement, tu es dans le foyer Albert Thomas, dont on a parlé la semaine dernière dans ce même Canu Info. Je fais un tout petit résumé de la situation. En gros, et tu me coupes si je dis une bêtise, en gros, les directeurs de l'association du foyer d'hébergement Albert Thomas ont fait un petit peu n'importe quoi avec les sous et l'association s'est retrouvée en liquidation judiciaire. Jusque-là, pas de problème, sauf que toutes les personnes qui étaient hébergées dans le centre étaient dehors, théoriquement, vendredi soir dernier. Est-ce que c'est vrai ?
Allô ? Alors attends, oui, ça...
Ah, tu me manques.
J'ai que un écho et je n'ai pas bien entendu alors, la question, malheureusement.
Alors, c'est normal. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé de la situation ? Qu'est-ce qui se passe au foyer Albert Thomas ?
Alors, ce qui se passe donc, le 20 décembre, les salariés ont reçu un texto qui leur a appris que l'association était en liquidation. Ils devaient être licenciés. Le texto est venu de la direction, qui l'a appris elle-même de deux membres du CA, qui sont donc les responsables et dirigeants officiels de l'association, qui étaient, puisque maintenant ils ont liquidé l'association. Donc l'association a connu des problèmes de gestion qui étaient cachés jusqu'alors, bien qu'étant tout de même connu de la DDCS et de la ville de Tours. Connu du pouvoir en gros, sachant que le premier financeur de l'association est donc la direction départementale de la cohésion sociale et le second est la mairie de Tours. Pour faire un peu plus bref, donc l'association a été liquidée par ses dirigeants. Ces derniers ont appris aux salariés qu'ils étaient licenciés par texto. Donc un des résidents était en vacances par exemple quand il a reçu le texto, il est revenu à Tours l'hélico. Et suite à ça, donc le préfet a annoncé qu'il désirait que les résidents du foyer Albert Thomas se rendent dans un gymnase qui était aménagé quelques jours plus tard pour les recevoir afin de fermer le foyer et de procéder à la liquidation de l'association, de la structure. Voilà. Suite à cela, certaines personnes ont été mobilisées pour se joindre un peu à la lutte, pour mettre tout le monde au courant. Donc voilà, il y a eu quelques articles qui sont sortis avant même l'annonce du préfet. Voilà, on a réussi à avoir quelques dates et quelques précisions au sein de la DDCS lors d'un rendez-vous avec les salariés.
Parce que les gens devaient être...
Voilà, donc les résidents ensuite, pour leur part, ne l'ont pas appris par texto, ils l'ont appris eux le surlendemain, donc le 23, la veille de Noël. Et donc ils devaient être mis à la rue le 26, enfin la rue au gymnase Paul Racot, mais qui était aménagée en situation d'urgence. Voilà, et donc ils ont refusé suite à cela de se rendre dans ce gymnase, qui pour eux ne convient pas, pour eux ce n'est pas des conditions d'hébergement correctes, et d'autant plus que la DDCS, le préfet et ensuite donc la ville avaient annoncé que le gymnase n'était disponible que jusqu'au 2 janvier. Donc ils avaient une réelle incertitude après le 2 janvier. Par rapport à cette incertitude, les résidents ont décidé de rester dans le foyer et donc d'occuper le foyer, sachant qu'ils avaient déjà été baladés le 29 septembre dernier. On leur avait promis 18 places d'hébergement au 115 suite à une fermeture soudaine du foyer liée à une agression. Et quand ils ont appelé le 115 le soir même après la promesse, il n'y avait aucune place de disponible. Donc tous les résidents se sont retrouvés à dormir dehors. Et donc les 18 personnes en question, qui étaient là ce soir-là, ne faisaient plus du tout confiance aux promesses là récemment. Et donc ont décidé collectivement de bloquer le foyer. Voilà. Ensuite, les salariés ont été prévenus par le liquidateur qu'ils devaient assurer un service minimum, à savoir ne pas assurer la nourriture, ne pas assurer les questions administratives. Les salariés sont restés quand même en bénévole pour faire un peu le lien. Là-dessus, il y a pas mal de dons, de la banque alimentaire. Un comité de soutien s'est organisé avec des habitants, des associations, quelques représentants politiques qui se sont greffés. Voilà, donc le blocage s'est organisé depuis quelques jours. Et aujourd'hui, il y a une manifestation qui est partie du foyer pour aller se rendre à la mairie, puis à la préfecture, car le maire avait, donc avant-hier, communiqué une lettre via un journal, donc via un communiqué de presse, sans encore une fois s'adresser aux résidents ni aux salariés. Donc, pour l'instant, ils n'ont été prévenus que via des communiqués de presse. Et donc le maire a réitéré la demande que les résidents aillent au gymnase, chose qui était déjà refusée depuis plusieurs jours, clairement, dans un communiqué des résidents, dans une lettre adressée au maire, au préfet et à la DDCS. Donc aujourd'hui, manifestation devant la mairie, avec un cortège qui était composé d'une centaine de personnes, matin, qui s'est rendu à la mairie, qui a exigé un rendez-vous, il y a eu un sitting devant la mairie. On a réussi à rentrer alors qu'ils ont essayé de fermer les grilles, mais on a attendu à rentrer dans la cour de la mairie quand même. Donc les flics étaient un peu gênés, on a bloqué l'entrée de la mairie pendant environ, je dirais, 2h30. Voilà, on n'a pas du tout été reçu, aucun communiqué de la mairie là-dessus, les portes étaient closes, personne n'est venu dire quoi que ce soit. Il faisait moins 2, moins 3 degrés, donc suite à cela, les gens décidaient d'aller à la préfecture comme c'était prévu pour aller ensuite demander la même chose à la préfecture. Là-dessus, les grilles de la préfecture étaient ouvertes quand on arrivait par chance parce qu'une voiture sortait, donc on s'est faufilé dans la cour de la préfecture. Ça a créé un petit mouvement de panique chez les deux policiers municipaux qui étaient dans la préfecture. On a pu faire un sitting dans la cour de la préfecture qui est normalement close. Et suite à cela, donc, il y a deux voitures de police qui sont arrivées, un fourgon de police qui est arrivé, et suite au slogan qui ne s'arrêtait pas, on a vu un représentant de la préfecture, qui était donc la personne, le nom de la personne, M. Brunet, qui est stagiaire à la préfecture, issu de l'EMA, voilà, un EMA pour un stage à la préfecture, qui nous a reçus en ayant quand même apparemment une fin du dossier. Et qui a reçu donc une lettre demandant un rendez-vous la semaine prochaine avec la DDCS, la mairie et la préfecture et le liquidateur, excusez-moi plutôt, pour avoir les trois personnes qui se renvoient la balle depuis le début autour de la table et qui entendent les revendications des résidents. Voilà. En gros, il a noyé un peu de poisson en disant qu'on aura un rendez-vous la semaine prochaine sans donner de date. Et la manifestation ensuite s'est arrêtée là. Voilà, donc pas de promesse, enfin pas d'entente en tout cas, une vague promesse de rendez-vous. Et le collectif de soutien s'est réuni à l'instant encore une fois, donc il s'organise administrativement, par voie de presse, pour communiquer encore plus largement toujours. Mais clairement, là, les Somaliens ont reçu ce matin leur licenciement, qui sera effectif le 4 janvier. Le 2 janvier, il y a clairement une menace que le foyer soit vidé par une intervention policière, sachant que la préfecture nous a annoncé que le gymnase était prolongé jusqu'au 31 janvier. Donc clairement, ils refusent de fermer ce gymnase, qui est réquisitionné depuis maintenant une semaine, dans lequel il y a 2 personnes sur les 36 places, les autres résidents étant restés au foyer. Et donc un gymnase vide, alors qu'il fait ce soir moins 4 degrés, bientôt moins 5, que le plan d'urgence n'a toujours pas été, le plan de grand froid n'a toujours pas été mis en route par le préfet, alors qu'il fait bien plus froid qu'il y a 3 semaines lorsqu'il avait mis en route. Et clairement, on a 34 places de libre dans le gymnase, alors que hier encore, on avait 80 personnes qui ont sollicité 115 sans succès pour avoir une place d'hébergement, et donc qui ont dormi dehors ou dans des halls d'immeubles, hier soir encore. Donc on se retrouve devant une situation ubuesque, où 80 personnes dorment dehors, un gymnase est vide, et les résidents n'ont toujours eu personne qui est venu les voir pour leur détailler la situation et entendre leurs revendications.
Eh ben, écoute, c'est super. On te remercie bien de nous avoir éclairé sur la question. Et enfin, c'est super votre lutte. Après, effectivement, la situation est toute pourrie, mais elle est pas mal pourrie à Lyon aussi. On te le cache pas. On espère avoir très vite des infos, par exemple en regardant sur la rotative.
Ouais, la rotative, c'est un bon moyen d'avoir des infos. Exactement.
Ok, et eh ben écoute, on te remercie beaucoup et puis ben on aura hâte de te rappeler vendredi prochain pour que tu nous racontes la suite des événements et d'ici là bonne chance.
Ça va, j'ai été clair, pas trop long, pas trop.
Incroyable.
Parfait.
Super, ben merci.
Très bien. Et bonne soirée à vous et au plaisir. À bientôt. Et merci du sujet et de communiquer sur ce qui se passe ici. Merci.
Ciao.
Salut.
Eh ben, merci beaucoup aux camarades Tourangeau d'avoir bien voulu nous éclairer sur cette situation désastreuse à Tours. Et maintenant, on va aller du côté de Aulnay-sous-Bois pour vous parler d'un détournement du code de la route qui sert au maire d'Aulnay-sous-Bois à faire la chasse aux SDF. Mais alors, que se passe-t-il à Aulnay-sous-Bois? Les habitants de cette commune de Seine-Saint-Denis seraient-ils entrés en rébellion contre la dictature des passages cloutés? Parce qu'il faut savoir que sa police municipale doit à elle seule être à l'origine de la majorité des procès-verbaux dressés pour infraction à l'article R412-43 du code de la route, celui précisément qui permet entre autres de verbaliser un piéton qui ne s'en tiendrait pas aux espaces qui lui sont réservés et qui, oh mon Dieu, empiéterait sur la chaussée. Cette année, ses agents en ont distribué plus de 500. Alors, est-ce que les piétons aulnaisiens ne sont en réalité pas plus inciviles que les autres? Cette particularité, Aulnay-sous-Bois la doit en fait à son maire, Bruno Béchitza, étiqueté Les Républicains, et à sa frustration d'avoir vu 2 arrêtés anti-mendicité, pris en 2014, annulés par le tribunal administratif de Montreuil l'année suivante. Puisque, à travers ces 2 arrêtés, le très droitier édile visait tout particulièrement des Roms et des réfugiés syriens, ayant pour habitude de pratiquer la mendicité au feu rouge et au carrefour encombré, il a trouvé dans le code de la route le bon prétexte. En mairie, on ne nie pas le détournement législatif, mais on parle plus volontiers d'astuces. La première adjointe, Séverine Maroun, justifiait ses choix en mettant en avant la présence d'enfants. Ils sont au milieu des voitures, il y a des bébés au bord de la route, ce n'est pas normal. Mais selon Miguel Hernandez, conseiller municipal d'opposition PCF, le maire utilise les forces de police municipales à sa disposition pour répondre à son électorat et donner des gages à la droite. Car Bruno Béchitza, du coup le fameux maire d'Aulnay-sous-Bois, n'est pas n'importe quel maire. Ancien policier, il fut secrétaire général du très droitier syndicat Synergie Officier avant d'entrer en politique dans le siège de Nicolas Sarkozy. En 2014, il prend la mairie aux socialistes après avoir mené une campagne axée sur la sécurité et promettant le démantèlement du camp de Rome du boulevard Allende. Élu, il s'y tiendra. Avec autour de 80 agents, Aulnay devient l'une des villes avec la plus haute proportion de policiers municipaux par habitant. Le coût est exorbitant pour une ville qui, dans le même temps, n'hésite pas à privatiser une crèche afin de faire des économies. Pour les seuls salaires, la police municipale coûte aux Aulnaysiens 3 millions d'euros par an. Aulnay est devenu un laboratoire pour la droite et Béchitza, c'est le shérif.
La chasse à la mendicité au carrefour relèverait donc surtout de l'affichage politicien. D'autant que le phénomène n'est somme toute pas très répandu. Cela concerne quelques carrefours importants, plutôt vers les quartiers populaires, là où des solidarités existent. Tiens, tiens, parce qu'en fait, quand on regarde vraiment, les nuisances mises en avant par la municipalité, elles n'existent pas vraiment. Il n'y a aucune agressivité et ces arrêtés ont même été cassés en partie en raison de l'absence de plaintes. Par ailleurs, selon les membres de l'opposition, la mendicité est largement tolérée dans la ville dès lors qu'il ne s'agit pas de Roms ou de Syriens. Donc il s'avérerait que le demi-millier de PV distribués pour avoir traversé en dehors des clous concernerait en grande majorité des étrangers. C'est quelque chose que les élus d'opposition sont en train d'essayer de vérifier et ils sont en train d'essayer de mettre en place une action en justice pour discrimination. Mais c'est quand même assez fou de détourner le code de la route pour faire la chasse aux étrangers.
Sans transition aucune, je vais vous parler d'Amazon, ce géant de la distribution, qui le jeudi 14 décembre, en pleine période des achats de Noël, a publié une vidéo intitulée « Première livraison d'un client par drone ». Alors, on voit des images, évidemment, un aéronef décolle avec à son bord un colis contenant la commande d'un client. Il survole une campagne anglaise et cette vidéo a été diffusée dans beaucoup de médias et notamment de JT. Visionné depuis sa publication plus d'1,5 million de fois sur Internet, ce film promotionnel n'aurait jamais pu atteindre une telle audience sans l'immense couverture médiatique mondiale et donc de très nombreux journalistes. Ces derniers n'ont pas vérifié l'information et se sont contentés de répéter que le frein principal à ces futures livraisons par drone demeure, je cite, les législations de l'aviation civile de nombreux pays. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque pour l'heure, les drones ne peuvent pas encore toquer aux portes, ni aux fenêtres des immeubles, ni même enfoncer le bouton d'un digicode ou prendre un ascenseur, ce qui, on l'avouera, n'est pas très pratique pour livrer des colis. Cet hiver, en Écosse, des employés d'Amazon ont dormi sous des tentes plantées aux abords de l'entrepôt où ils travaillent. Voilà, ça, c'est juste pour mettre un petit peu en perspective avec la réalité du terrain et des travailleuses et travailleurs d'Amazon. Ces Écossais donc, qui travaillent pour cette boîte sont trop pauvres pour payer leur trajet domicile-travail. La navette Amazon est payante et très onéreuse. Et ces travailleurs ont dû subir des températures négatives et vivent donc comme des sans domicile fixe afin de pouvoir vendre leur force de travail. On rappellera que cette multinationale pèse quand même 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et là, pour le coup, cette information n'a pas eu l'audience médiatique de celle mensongère, donc, de la livraison par drone. Et un jour après l'annonce de la livraison aérienne par Amazon, ce fut cette fois la très nationale La Poste de communiquer de la même manière à propos de sa première livraison de colis, elle aussi par drone. Là encore, l'information a eu plus d'audience que le chiffre publié au même moment, à savoir ses 50 employés qui se sont suicidés en 2016. Ces livraisons par drone illustrent donc une utopie libérale, celle d'un lointain paradis technologique où les travailleuses et les travailleurs, qu'ils soient livreurs, facteurs ou manutentionnaires, pourront être enfin concurrencés puis remplacés par de nouvelles machines plus productives et rentables que les humains.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestins.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF.
Alors, dans la rubrique migration, on va parler en fait des permanences du Parti Socialiste de Loche et Joey Les Tours qui ont été taguées en solidarité avec les migrants. Ça a été écrit dans la nuit de lundi à mardi sur la permanence du député PS du Lochois, des inscriptions en soutien aux migrants comme « No Border, No Nation »,« PS pourri » et « Vive les migrants ». Suite à ça, le député s'est fendu d'un communiqué. où il explique que la violence, quelle qu'elle soit, n'est pas une solution. Et on est bien d'accord avec lui, stop à la violence. La
envers
violence
les
envers les migrants qui sont raflés quotidiennement dans les rues de Paris, qui sont gazés aux frontières. Et voilà, tous les migrants qui sont partis de Calais parce qu'on leur a fait plein de promesses. Pour qu'ils aillent dans les centres d'accueil et d'orientation. Donc maintenant, il y a des traitements très différents dans les différents centres d'accueil et d'orientation un peu partout en France, mais il y a des endroits où ça se passe très mal, notamment à Biscarrosse, où il y a des grosses protestations. Puisque en fait il y a plusieurs CAO, donc centre d'accueil et d'orientation pour mineurs à Biscarrosse, donc c'est près de Bordeaux, et il y a eu plein de manifestations les derniers temps qui étaient auto-organisées. Il y a eu des grèves de la faim depuis plusieurs jours pour protester contre la décision du gouvernement anglais d'arrêter d'accepter les mineurs en Angleterre. Puisque, en fait, le gouvernement avait promis à tous les mineurs qui étaient à Calais que s'ils acceptaient d'aller dans les centres d'accueil d'orientation, ils seraient ensuite accueillis dans des programmes qui les emmèneraient en Angleterre pour rejoindre leur famille. Or, c'est faux. Comme, voilà, c'était des belles promesses. Mais la semaine dernière, les associations gestionnaires des CAO à Biscarrosse ont communiqué aux mineurs que l'Angleterre n'acceptait plus les mineurs qui attendaient dans les CAOMI, donc les centres spéciaux pour mineurs. Voilà, contrairement à toutes les promesses qu'on leur avait faites. Donc, les gestionnaires des CAO les encourageaient à faire leur demande d'asile en France ou à rejoindre l'Irlande. Mais voilà, les mineurs, en fait, ils ont envie d'aller en Angleterre. Donc, il y en a qui ont essayé de s'enfuir, en fait, des centres. Voilà, vu qu'ils ont compris qu'on leur avait menti. Donc ils font plein de manifestations pour dire qu'ils veulent rejoindre leur famille. Et là, en fait, il y a 35 migrants qui ont quitté les centres d'hébergement et qui ont été retrouvés frigorifiés. Du coup, ils étaient arrivés à Luchon fin octobre après le démantèlement de la jungle. Et après, ils étaient dans ces centres-là. Puis là, hier, en début d'après-midi, il y en a 35 mineurs qui avaient quitté le centre d'hébergement pour retourner à Calais. Donc, ils ont marché pendant 13 kilomètres dans la pluie et le froid, le long de la route qui est hyper dangereuse. Et finalement, ils ont été retrouvés complètement frigorifiés sous un abribus à côté d'un village de Guran. Il y en avait deux qui étaient en hypothermie. Et du coup, ils ont appelé les secours pour être transférés à l'hôpital. Voilà, du coup, y a eu ces promesses-là pour les mineurs qui n'ont pas été respectées, plus la promesse qui avait été faite à tous les migrants de ne pas être dans la procédure Dublin. C'est-à-dire, on avait dit aux migrants qu'ils ne devraient pas attendre 18 mois pour faire leur demande d'asile. Et en fait, c'est faux, ils doivent quand même attendre parce qu'ils sont dans cette procédure Dublin. Donc en fait, là, il y a eu plein de médiatisation autour de Calais pour dire si tout le monde va être régularisé, ils vont avoir un traitement de faveur. Et en fait, c'est faux. Donc maintenant, soutenons les migrants. En fait, il y a des promesses qui ont été faites devant tout le monde, donc elles doivent être respectées.
On soutient les migrants et on passe à la rubrique internationale.
And now in the Canu Info.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internationale.
Et cette semaine dans le Canu Info du vendredi soir, on ne parlera pas du gaz de schiste, mais du Brésil, parce que nous avons la chance, l'immense honneur, d'avoir deux personnes qui peuvent nous parler du Brésil. Et notamment, on va commencer par parler de l'afroféminisme.
Voilà. En juin 2013, nous, les Brésiliens, on disait que le géant était réveillé. Oui, tout a commencé quand on a fait des manifs à São Paulo parce que le tarif du bus a augmenté 20 centimes. Un groupe a fait une manif et la police les a tabassés. On a fait une nouvelle manif contre l'augmentation du tarif et contre la violence de la police. Après, on s'est rendu compte que les tarifs de bus allaient augmenter dans plusieurs capitales du Brésil. Et on était à fond avec toutes les dépenses pour la Coupe du Monde. Ok, on a fait une manif contre les dépenses publiques élevées, contre l'augmentation des tarifs des bus et pour le droit de faire une manif sans se faire tabasser par la police. Oui, bien sûr, tous les scandales de corruption, vu que chaque entreprise voulait facturer beaucoup plus avec toutes les constructions des routes et des stades. Un joueur de foot très connu, il a dit, je cite, « On ne fait pas des Coupes du Monde avec des hôpitaux. » Pour justifier que toutes les forces et aussi tout l'argent du Brésil devraient être concentrés pour la Coupe du Monde. Ok, on a compris qu'on avait plein de raisons pour manifester et on est tous partis dans la rue, tous ensemble. Et je trouve que c'est très juste qu'on manifeste. Je dois parler au micro, ok. Et c'est très juste qu'on manifeste, mais on s'est rencontrés dans la même manif avec des pancartes et avec des revendications contradictoires. On a vu des manifs des riches qui voulaient le droit de payer moins à leurs domestiques. Des manifs des domestiques précaires qui voulaient plus de droits. Et du coup, on a entendu aussi parler des manifs contre les quotas socio-raciaux à la fac au Brésil. Oui, j'arrive un peu trop vite au but de mon intervention ce soir. La production afroféministe cette année au Brésil. Et avec la démocratisation des moyens de communication, et aujourd'hui, beaucoup de pauvres Brésiliens ont un smartphone et Internet. Grâce à la démocratisation aussi de l'accès aux études universitaires, les Noirs et les pauvres, le pauvre de la favela brésilienne, ils ont accès, ils ont la parole. Parce que la pauvreté au Brésil, elle a majoritairement une seule couleur. C'était l'année des afroféministes. Pour la première fois, j'ai entendu plusieurs débats sur la question du féminisme noir. Pour la première fois, j'ai questionné le fait que dans mon éducation noire, nos héros étaient tous des hommes. Les forts esclaves qui nous ont libérés de l'esclavage. C'est très juste, parce que c'est des forts esclaves qui nous ont libérés de l'esclavage. Mais nos héros étaient que des hommes. Et où sont les femmes? Où sont les esclaves dans les révoltes? Dans les films sur l'esclavage ou dans la lutte noire, où sont nos héroïnes? On parle beaucoup de Zumbi dos Palmares, un leader d'un quilombo au Brésil, notre grand héros de l'abolition. Mais et on ne parle pas de Dandara, de Luiza, des femmes esclaves brésiliennes. Grâce à Internet, on a connu la parole de plusieurs femmes noires et leur combat. Les étudiantes, les docteurs, les filles et mères de la favela, qui, grâce à leur portable, peuvent médiatiser et dénoncer les bavures de la police, les sexismes de leur quotidien et les crimes faits aux femmes. À ce moment-là, on a commencé à connaître aussi leur art. Le rap et les funk brésiliens sont des manifestations artistiques et politiques de la favela, majoritairement représentées par des hommes. Ces dernières années, on a commencé à entendre des revendications féministes dans leurs paroles. Et si avant on entendait que des petites claques faisaient pas mal, aujourd'hui, dans les mêmes styles, sont présentés les vécus des mères célibataires, la force et l'intelligence de la femme noire, nos résistances et les luttes pour la reconnaissance de notre histoire et justice pour les assassinats commis par la police. Assassinats, je répète. La musique que je veux vous faire écouter est chantée par MC Carol, une artiste afro-brésilienne de 23 ans. Et dans cette musique, elle dénonce les traitements injustes des habitants de la favela assassinés par la police face aux criminels issus de l'élite blanche brésilienne.
Troca de plantão, a bala como é fera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meota. Mataram uma criança indo pra escola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola.
De uma câmera de segurança flagrou um adolescente sendo baleado a queima-roupa por policiais.
Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado.
não existe justiça se assassino tá fardado. Na televisão a verdade não importa, é negro favelado então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa, é negro favelado então tava de pistola. Três dias de tortura numa sala cheia de rato, é assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso, tem cela separada, tratamento VIP e delação premiada.
Por que que tinha luva no local antes da perícia chegar? Por que que tinha sangue no muro? Ele foi torturado até a morte, DG do bote da madrugada, papel, pela PM da pacificação até a morte.
Na televisão a verdade não importa, é negro favelado então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa, é negro favelado então tava de pistola. Troca de plantão, a bala como é fera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meota. Mataram uma criança indo pra escola. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato, é assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso, tem cela separada, tratamento VIP e delação premiada. Na televisão a verdade não importa, é negro favelado então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa, é negro favelado então tava de pistola.
Et on reste au Brésil avec les mouvements sociaux qui s'y passent de manière un peu plus globale. Il y a 3 semaines, on avait commencé à parler, mais on n'avait pas vraiment eu le temps, du mouvement des occupations de lycées, des lycées publics du Brésil. Et donc on va saisir l'opportunité de vous en dire un peu plus aujourd'hui. Du coup, c'est un mouvement duquel on n'a pas forcément entendu beaucoup parler ici. Il a commencé en fait en novembre 2015 au niveau local, au moment où en fait les écoles d'un état du sud du Brésil qui s'appelle le Paraná a voulu couper le budget de son éducation publique, ce qui a débouché sur un gros mouvement de lycéens qui ont occupé leurs écoles contre ce gel des budgets, et qui a donc mené en fait au retrait de ce gel malgré l'énorme répression qui a eu à ce moment-là. Enfin, les lycéens étaient vraiment virés de leur lycée à la manière dure. Et en fait, 6 mois plus tard, donc là, cette année, on a eu un petit peu la même chose au niveau national, puisque le gouvernement putschiste actuel a décidé de geler les dépenses de santé et d'éducation pour les 20 prochaines années au Brésil. Donc voilà.
Wow, oui.
Et ils se sont dit, pour la peine aussi, qu'ils allaient rendre optionnels tous les enseignements de sciences humaines dans les écoles publiques, et qu'ils allaient interdire, et donc une réforme pour interdire les enseignements idéologiques. Alors c'est-à-dire, ils considèrent que les professeurs sont d'horribles marxistes lobotomisant le cerveau de leurs élèves, et donc du coup, par exemple, si le prof parlait d'esclavage, il aurait dû donner le point de vue des esclaves et des propriétaires d'esclaves, bien sûr, puisqu'il faut faire une école sans parti pris. Donc les lycéens ont moyennement apprécié. Et donc on a eu un peu le retour de ce mouvement local, mais au niveau national, puisqu'il y a eu plus de 850 lycées occupés. Et donc les élèves ont autogéré le planning de cours. Donc ils ont commencé à inviter soit ils ont proposé des thèmes à leurs profs, soit ils ont invité des profs des facs alentours pour venir leur donner des...
Et des artistes, il y avait plusieurs interventions, des spectacles, plusieurs activités dans l'école.
Et donc c'était une politisation par le grand bout et par le petit bout, quoi. C'est d'un côté, eux, dans leur vécu au sein de l'école, puisqu'en fait ils sont restés plusieurs mois à habiter dans l'école, à gérer, à faire le ménage, etc. Il y a eu un gros débat sur les relations de genre, les relations raciales, qui ont essayé d'être, on va dire, compensées vis-à-vis de la base de ce qui se faisait dans leur quotidien. Et donc il y a eu une réflexion sur le quotidien et puis il y a eu une réflexion sur la politique plus nationale, puisque en gros ils voulaient être associés à la réforme des lycées qu'on voulait leur imposer. Et effectivement, ils voulaient pas du tout proposer la même chose. Comment ça s'est fini? Parce que là, en fait, on a passé un peu le pic du mouvement. Là, quand même, je pense qu'il y a plus de la moitié des lycées qui ont été expulsés manu militari. Cependant, le gouvernement fédéral a d'abord fait passer cette réforme avec l'équivalent du 49-3 brésilien, quoi, la mesure provisoire. Donc ça va être voté bientôt. Et certains États au niveau local, donc comme l'État de São Paulo par exemple, a décidé déjà de ne pas appliquer la réforme. Donc bon, pour le moment, on va voir ce que ça va donner, mais ça a quand même un petit peu porté ses fruits. Pour finir sur le Brésil, rapidement, les perspectives politiques générales. Donc là, peut-être que Laura ne sera pas d'accord avec ce que je vais dire. Moi, je suis plutôt pessimiste. Depuis le coup d'État, les manifs sont moins massives que ce qu'il y a eu. Vous vous rappelez, avant le coup d'État, grosse manif très polarisée, la droite, la gauche. Aujourd'hui, la gauche est toujours dans la rue, même si elle mobilise pas massivement. C'est sûr qu'il y a eu la manif du 13 décembre qui a été impressionnante. Je sais pas si elle était si massive. Bon, tu pourras dire quelque chose. c'était bien. Ils ont occupé quand même la Chambre des députés. Ça a quand même bien clashé avec la police. Cela dit, je suis pas sûr qu'on assiste à un mouvement de masse. Et d'autre part, la droite est revenue dans la rue également. Parce que évidemment, eux, leur cheval de bataille à la base, c'était la lutte contre la corruption. Et eux, ils sont toujours dans leur idée de lutte contre la corruption sélective, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas contre le nouveau président du Brésil, mais ils sont contre les députés corrompus.
Je trouve aussi que le problème de la droite brésilienne, c'est que leur solution, des fois, c'est demander un coup d'État militaire. Il y a des droites brésiliennes qui disent oui, il faut que les militaires y reviennent, parce qu'on a eu déjà une histoire de coup d'État militaire. On a eu 20 ans de dictature militaire. Et il y a des gens de la droite brésilienne qui croient vraiment que les militaires peuvent nous sauver. Mais moi, je suis optimiste. Je pense que Temer, qu'il va partir. Parce que aussi, pour le fait que tous les dénonces de corruption, lui, il est dans plusieurs dénonces. Je ne sais pas comment on dit ça, mais son nom, il apparaît dans plusieurs
enquêtes.
Et pas celui de Dilma. Mais c'est son vice-président, du coup. Mais du coup, c'est pour ce fait que je pense que jusqu'à Noël prochain, il va plus être là.
Alors, c'est pas pour évidemment faire le pessimiste de service. mais moi, je suis assez d'accord sur ton constat. Je pense qu'on a un gouvernement qui a aucune base ni sociale ni légitimité politique. Et en plus, qui est corrompu, donc je suis pas sûr qu'ils resteront. Cela dit, je sais pas qui c'est qui va prendre la place de la droite une fois que la droite sera tombée, puisque on a vu aux élections municipales à la mairie de Rio de Janeiro l'équivalent du NPA contre l'extrême droite religieuse, et c'est l'extrême droite religieuse qui a gagné.
Oui, malheureusement. Mais Inch'Allah, tout va être bien.
Merci beaucoup. On passe tout de suite au traditionnel agenda.
Je te rappelle qu'on va au théâtre ce soir, Chou.
Oh oui, putain. Oh, quel bordel.
Et voilà, du coup, il est 19h58 et on passe à l'agenda du Canu Info du vendredi. Et alors, on a une seule information à vous donner, mais une information qu'on va développer, à savoir qu'il y a un rassemblement contre le régime dictatorial soudanais le 1er janvier. Et oui, vous ne savez jamais comment occuper votre 1er janvier. Voilà la solution. Le régime dictatorial soudanais continue à tuer des civils non armés dans différentes régions du pays. Il attaque avec énormément de violence tout mouvement populaire pacifique de tous les secteurs de la population soudanaise. Du coup, il y a un rassemblement contre la dictature au Soudan, donc dimanche 1er janvier, place Bellecour, de 14h à 18h. Ramenez les restes de votre réveillon aussi. Je vais vous lire du coup le texte qui circule à Lyon en ce moment et qui a été écrit par des immigrants soudanais qui disent du coup « Nous sommes des centaines d'immigrants soudanais. Nous sommes arrivés à Lyon au cours des différentes périodes dès le début des années 90. Aujourd'hui, nous sommes plus de 500 personnes sur Lyon, hommes, femmes et enfants. La majorité est arrivée au cours des trois dernières années. » Cette année, on compte plus de 200 migrants soudanais qui sont arrivés à Lyon après le démantèlement du camp de migrants à Calais. On vous en parlait aussi tout à l'heure. Pourquoi nous sommes ici ? Selon le rapport d'activité de l'OFPRA de l'année 2015, et en augmentation sensible puisque 180% entre 2014 et 2015, la demande soudanaise est devenue le premier flux des demandes déposées en France en 2015. Le nombre de dossiers déposés en France a atteint 5115 dossiers. L'OFPRA signale que la grande majorité des demandeurs d'asile est composée des personnes d'origine soudanaise. Ils viennent du Darfour, du Kordofan et du Nil Bleu. Ils fondent leur demande de protection sur leur origine ethnique. Le rapport montre que l'instabilité croissante du pays et la multiplication des conflits régionaux au Soudan sont les raisons les plus importantes de l'augmentation du nombre des demandes. Le rapport considère la situation économique comme désastreuse et parle d'un raidissement du pouvoir face à la protestation contre la vie incroyablement chère et au mouvement des étudiants qui demandent à participer sur la scène politique. Le régime dictatorial soudanais continue à tuer des civils non armés dans différentes régions du pays. Il attaque avec énormément de violence tout mouvement populaire pacifique de tous les secteurs de la population soudanaise. Le gouvernement du général Omar al-Bashir a exercé, pendant 27 ans, des arrestations arbitraires, des confiscations des journaux officiels et des massacres contre les civils et les manifestants. Le peuple soudanais a décidé d'intensifier la lutte contre ce régime afin de le renverser et de parvenir à un état de justice et approcher un régime démocratique. Deux mouvements populaires soudanais, de grève multisectorielle et généralisée, ont secoué les piliers du régime entre les mois de novembre et de décembre 2016. Nous croyons que le renversement du régime soudanais et la démission du président Omar al-Bashir et de ses collaborateurs impliqués dans des crimes de guerre et de génocide à la Cour pénale internationale est le seul moyen de sortir de cette situation politique, sociale et économique sans précédent. Nous pensons que les prochains jours vont s'accompagner d'un flux encore plus important d'immigrants soudanais si aucun changement politique n'est opéré rapidement. Nous faisons appel à tous les peuples libres, aux organisations de la société civile, à tous les organismes et à tous les militants pour soutenir le peuple soudanais dans sa lutte contre le régime totalitaire afin d'obtenir la justice et la liberté. Nous appelons aussi les gouvernements européens à prendre une position claire et affirmée contre ce régime et à travailler pour la remise de ses membres à la justice internationale et à ne pas soutenir ces projets qui ont pour objectif de tuer le peuple soudanais et de l'expatrier. Du coup, voilà, ben on vous donne rendez-vous dimanche 1er janvier, place Bellecour, de 14h à 18h pour soutenir les résistances soudanaises.
Et d'ici là, si vous voulez faire la fête, demain soir, le 31, il y a une petite boum à l'atelier des canulars. Fallait pas le dire.
Je pense qu'on peut le dire.
Bah maintenant on n'a qu'à donner l'adresse tant qu'à faire. Hein. C'est 91 rue Montesquieu, métro Saxe Gambetta. Voilà.
Il n'y a pas une boum OPS aussi?
Ah ouais. Alors
mais
l'adresse du PS, je crois, mais je suis pas sûr, on en a parlé la semaine dernière, mais du coup j'ai un peu oublié. À mon avis, c'est Cours de la Liberté. Je sais plus, c'est le 21, le 31, enfin c'est par là quoi. Prenez le Cours de la Liberté et puis bah peut-être que vous arriverez à vous libérer.
Ouais. Vous ferez peut-être un peu la fête avec Gérard Collomb et ça c'est quand même méga cool. À part ça, le 7 janvier, il y aura une manifestation antifasciste. Vous savez qu'il y a deux, trois petits problèmes avec nos amis fachos à Lyon actuellement. Ce sera à 15h, place Raspail. Donc le 7 janvier, ça doit être un samedi.
Et oui, je te confirme que c'est un samedi, parce que le samedi, eh ben, le 7 janvier exactement, à partir de 15h aussi, c'est marrant comment on se retrouve sur les dates, vous pourrez aller au bar de l'autre côté du pont pour participer à une journée de soutien à des familles qui sont dans un squat et qui ont été privées d'électricité. On se rappelle, il y avait eu une super soirée à l'atelier des canulars, justement, donc 91 rue Montesquieu.
Ah mais c'est là où il y a une fête demain, non?
Ah ouais, c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, c'est tant mieux parce que de l'autre côté du pont, c'est pas du tout loin de Cours de la Liberté, là où il y a la permanence du PS.
Attends, l'autre côté du pont, c'est le truc où il y a des soirées de soutien à l'autre côté du pont tous les soirs.
C'est ça. Mais du coup, cette soirée de soutien aux familles qui sont privées d'électricité dans un squat, c'est très simple. Il y aura eu des activités couture, des activités crêpes, une super soirée en perspective. Et puis bah là, ça pourrait être Noise Pollution, mais ça sera pas Noise Pollution cette semaine. Mais on va vous remettre les bandes 24-24. Et d'ici là, n'oubliez pas, paniquez pas.
Niquez tout. You're working so hard. You're working so hard. You're working so hard.
Vous êtes à l'écoute de Radio Canu. À l'instant, on a écouté Starkey avec PC. Après, c'était Clark avec Baskerville Grinch. Et enfin, au début, c'était Mode Selector avec Monkey Flip.